I got glue and chill it, put it to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit de ne pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite sauce perd une belle plume de haut. Pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas au nom de qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est la polska, c'est une danse à trois temps. La danse se déroule globalement sur les temps 1 et 3, mais pas tout le temps. Et le 2, on s'en sert énormément, mais souvent il n'est pas marqué, mais des fois il est marqué. Et surtout entre le 1 et le 3, le 2, il est hyper mobile. Il peut être à plein d'endroits différents. Et par ailleurs, il est polska avec un premier temps court, ou plutôt avec un troisième temps court. En gros, c'est un peu le bazar, mais c'est dans ce qu'on fait un peu, qu'on cherche à faire, c'est taper le 1 et le 3, ce que vous avez déjà commencé à faire. Et donc, je vous le refais écouter un petit peu. Vous essayez pour l'instant de ne pas regarder ce que font les autres, de taper juste du bout du pied, de l'ongle, du gros pouce, du doigt de pied, le 1 et le 3. Et vous n'étiez déjà pas d'accord, et j'ai mis longtemps à être d'accord moi-même, avec moi-même.
Cet été, à l'occasion d'une semaine de stage, nous découvrons l'association Midrias qui l'organise et sa cousine Mustradem, un collectif d'artistes trad.
On y va, on le chante. Je fais une mesure. 1, 2, 3.
On vous propose aujourd'hui une émission spéciale en immersion dans l'esprit Midrias à la rencontre de sa pédagogie et des groupes qui en sont à l'origine.
Isabelle Pignol, donc je suis violiste depuis un paquet d'années et je suis formatrice ici dans le cadre des stages organisés par Midrias en Vielle, à Roux. Midrias, c'est une association d'amis, voilà, avec des formateurs musiciens qui sont professionnels et toute une équipe de bénévoles qui nous accompagne, nous suit. Et nous rend bien service pour tout ce qui est organisation du stage, tout ce qui est hors pédagogique, l'accueil des stagiaires, les repas. Alors Midrias, c'est la branche pédagogique de Mustradem. On s'attache vraiment à la pédagogie. Donc Midrias peut produire des documents pédagogiques, des méthodes, des vidéos pédagogiques, voilà, mais ça reste toujours dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on fait pas, on produit pas de spectacle, on produit pas de spectacle vivant. Mustradem, au départ, c'était un collectif, donc moi j'étais à l'origine de la création de Mustradem. En fait, on s'est créé en association, c'était Dédale au départ qui jouait beaucoup, le groupe Dédale, et il fallait qu'on organise un petit peu plus les choses pour pouvoir, quand on a commencé à être professionnel, intermittent du spectacle, il a fallu qu'on organise les choses pour pouvoir se salarier, pour pouvoir produire des disques.
Je suis Jean-Pierre Sarzier, dans Midrias, j'anime l'atelier clarinette. Je suis assez actif aussi dans les ateliers Tea Time, ces ateliers de fin de journée où on enseigne l'harmonie. Ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Sinon, à côté, je suis musicien professionnel. Moi, je vis plutôt des concerts. En musique trad un peu néo, c'est-à-dire beaucoup de compositions, bien que je viens au trad petit à petit. Moi, a priori, j'étais pas musicien de trad au départ. Je vis beaucoup de l'improvisation libre aussi. Je suis souvent invité, je vais souvent jouer avec des gens, en fait. Alors moi, j'ai commencé ça donc il y a longtemps. Moi, je suis venu au trad parce que je jouais du synthétiseur. Donc
c'est logique.
C'est parfaitement logique. Et avant, je faisais du reggae dans un groupe grenoblois. Et puis, je suis arrivé au trad parce que j'ai rencontré Norbert et Isabelle Pignol. Et c'est vrai qu'avec des telles locomotives... Alors, ils voulaient faire du Pink Floyd, du folk, en fait. C'était vraiment... On était le premier groupe de néo-trad. Tout était composé, les instruments traditionnels improvisés. Et vous voyez, donc au début, l'idée, c'était des gens qui jouaient des instruments trad. Norbert et Isabelle Pignol au diatto et à la vielle. Christophe Sacchettini à la flûte. Et puis moi au clavier et Olivier Cohu qui était à la basse électrique. C'était Dédale. Donc ça a été. Ça a très 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 bien marché. On a enregistré 6 albums, on a vendu des milliers de disques, on a fait plein de tournées. Ça a tourné bien pendant 15 ans. Et du coup, je me suis retrouvé à reprendre ma clarinette de quand j'étais petit. Et puis à adapter le jeu de la clarinette à ce qui se faisait en musique trad. C'est-à-dire que je suis allé voir des violonistes, des cornemuseux, et j'ai adapté un peu toute l'ornementation, etc. Il fallait un peu tout inventer, parce que cet instrument, il y avait très peu de clarinettistes à l'époque. Et puis je me suis mis à faire de plus en plus de clarinettes basses, et là aussi il y avait tout à inventer, parce qu'il n'y avait pas de bassiste clarinettiste basse. Comme mes amis avaient monté ces stages-là, au départ c'était juste un stage de diato, il y avait Norbert et Stéphane. Petit à petit, moi, j'ai été embauché très vite, et dans ces stages-là, et dans les stages d'improvisation qu'ils faisaient. Moi, j'avais pris des cours de piano jazz, et à chaque fois que j'amenais une nouvelle notion, je leur faisais voir. On travaillait ça ensemble, et puis on a très vite intégré ça au stage. Mais pour moi, les stages, ça a toujours été vraiment en parallèle à l'activité artistique. Alors, ça nous fait notre formation à nous aussi. Et ce parcours-là, je pense qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse. Maintenant, il commence à y avoir beaucoup de clarinettistes et des clarinettes basses dans le trad. Et j'essaie de partager ce que je fais.
Alors, Marie Mercier, je suis clarinettiste. Au sein de Midrias, je suis bénévole. Et mon parcours de musicienne, ça a été d'abord un parcours de musicienne classique pendant très longtemps. Et j'ai commencé à découvrir d'autres styles de musique, en partie par Midrias et puis le monde du théâtre, du spectacle. Voilà. Actuellement, je joue avec Frères de sa Quartette dans une formation pour du bal et du concert. On fait les deux.
Perrine Dulac, donc moi je suis présidente de Midrias depuis 9 mois depuis cette année. Moi, j'ai d'abord été stagiaire, en fait. En fait, j'ai rencontré l'équipe par le biais de Norbert et Jérémy dans un autre festival à Vialux, dans le centre de la France. Et c'est eux qui m'ont parlé de Midriaz. C'est comme ça que je suis arrivée à Midriaz. D'abord par les stages d'impro, ce qui est un peu bizarre, parce que je n'avais pas le niveau en diato pour faire le stage d'impro. Donc, je fais du diato. C'est en partie mon métier.
Alors, Midriaz, c'est à la fois, c'est une association, c'est une équipe pédagogique formidable, donc qui propose une multitude d'approches, que ce soit ciblées sur un instrument, ciblées sur un style, différentes pratiques collectives, et puis sur l'improvisation. Et c'est une équipe qui réfléchit autant à la pédagogie que leur rôle dans la musique et le lien avec le bal. Donc c'est une association très très engagée, vraiment qui permet de former. On peut, moi j'ai vu de nombreux stagiaires progresser à vitesse grand V, avoir une culture par tous les stages qu'ils ont fait qui est très large par rapport à ce qu'on peut faire au conservatoire. Rien que ce qui est hors des ateliers, mais les bœufs, ça apprend énormément de choses. En fait, c'est une association qui permet de se former au sein des stages et dans tout le lien social que ça crée autour.
Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que pour moi, c'est aussi une pièce maîtresse dans le fait de faire vivre de la musique traditionnelle dans le monde d'aujourd'hui, avec plein d'influences qui viennent de partout. Parce que les gens qui sont pédagogues, mais aussi des fois les stagiaires, ben en fait, ils viennent d'univers hyper différents. Par exemple, en impro, on a souvent beaucoup de stagiaires qui viennent du monde du jazz, ou qui aimeraient en faire partie. Là, on a des gens qui viennent de la musique des Balkans, et des fois, c'est un peu éloigné du monde du bal folk. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant au sein de Midriaz et aussi de Mustradem, d'ancrer la tradition dans la vie, de faire évoluer la tradition avec le monde d'aujourd'hui, quoi.
Je commence. Je suis Laurence Dupré. Je joue du violon. Je suis, en dehors des stages Midriaz, je suis enseignante dans un conservatoire, dans un établissement d'enseignement artistique, dans le Nord Isère, et où j'enseigne le violon et les musiques traditionnelles. Personnellement, Midriaz, c'est effectivement une association qui a pour but de transmettre des musiques traditionnelles, des styles, des répertoires, et avec cette idée-là que, c'est aussi bien des répertoires issus de collectes qui sont transmis oralement, contextualisé historiquement, et puis également tout ce qui est la pratique d'aujourd'hui. JP a parlé tout à l'heure de courant néo-trad. Donc il y a tous ces courants qui existent, qui sont représentés, avec évidemment toute la part de création aussi, créativité, d'improvisation.
Donc c'est un tricot qui a été composé par Gaëtan à la clarinette. Elle est là, elle arrive. Et qui sera donc accompagné, alors il y a eu du changement, par Véro à la clarbasse, je crois. Ah non plus, ok. Véro, elle était inscrite partout, finalement elle vient pas. Marie-Hélène au diato et Raphaël à la flûte. Donc une clarinette, un diato et une flûte.
Pour nous, c'est très important de ne pas opposer la tradition, parce que c'est une tradition qui est quand même en partie imaginée, parce qu'on a des textes, on a des documents, mais on ne sait pas comment les gens y faisaient. Et puis la musique actuelle, parce que la tradition, en fait, c'était la musique actuelle. Ça a toujours été fait par des gens. Et quand on a commencé à faire de la musique, il y avait des gens qui ne supportaient pas ce qu'on faisait, parce qu'on allait contre la tradition. C'est-à-dire qu'on se prétendait dans le milieu folk, trad, dans le bal folk, etc. Et ils disaient, oui, mais vous ne faites pas des trucs de votre région. Alors, on ne parlait même pas de faire des trucs d'autres régions. C'était juste, vous êtes à Grenoble, vous ne faites pas de rigodon, ce n'est pas normal. Et puis, vous composez. Alors que pour nous, déjà, on avait un énorme respect pour les maîtres, qui, eux, avaient souvent... Alors, dans les maîtres, il y avait Jean Blanchard, Eric Moumbel, il y avait ces gens-là. Et en même temps, il y avait ce respect-là et il y avait la volonté de faire notre musique. Et pour l'enseignement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est allé voir dans comment se faisait l'enseignement de la musique classique, parce que c'est pas parce que c'est du trad que ça doit être mal joué. La technique, c'est un truc qui existe. Les techniques sur les instruments non trad, c'est les mêmes que pour les instruments classiques, avec un peu plus d'ouverture pour le trad. L'improvisation, c'est un truc qui existe, c'est une pratique d'aujourd'hui. Et ça, pour nous, ça n'a pas de sens. Enfin, surtout, ça fait sens de ne pas opposer ça.
Alors nous, on a toujours été ensemble à cause de ça, d'ailleurs, parce que c'est notre façon de voir la musique. C'est-à-dire qu'on vient des musiques traditionnelles, donc on garde quand même toujours cette un peu ça en nous, quoi. Et sachant que c'est des musiques qui se transmettent oralement, donc sans partition à l'origine, voilà. Et nous, on avait envie d'aller un petit peu plus loin que les musiques traditionnelles et de mêler ça à plein d'autres choses. À l'époque, on était jeunes, donc c'était un peu plan-plan pour nous. On en a eu vite marre, en fait. Je le schématise, mais on a eu vite marre des musiques traditionnelles. Et on s'est dit, c'est quand même vachement intéressant de mélanger ça à d'autres choses. Donc, on a d'abord exploré les musiques traditionnelles des autres pays pour mixer. Ensuite, on a mixé avec du rock un peu et du jazz. Et du coup, on s'est mis vraiment à faire de l'harmonie, à travailler l'harmonie, à apprendre le solfège, etc. Donc nous, en tant que formateurs, on a été obligés de se former vraiment comme des musiciens complets, quoi. Et on a toujours voulu intégrer d'autres instruments, en fait, sortir un petit peu du cadre uniquement traditionnel, vielle, cornemuse, accordéon. Et on a rajouté de la basse, du clavier. Et tout ça, ça nous a permis de jouer amplifié, déjà, et puis de faire des harmonies un peu plus riches, donc de travailler l'harmonie, vraiment, parce que les harmonies en trad pure, elles sont plutôt simples, mais elles restent accessibles. Et du coup, on a travaillé beaucoup dans le sens d'harmonie plus riche et d'aller vraiment travailler les musiques traditionnelles comme des musiques à part entière, c'est-à-dire comme on pourrait travailler d'autres musiques, tout en gardant ce côté oral, mais aussi d'étudier l'harmonie, la théorie musicale, voilà, de travailler aussi beaucoup le rythme, la tourne, le groove et les structures des morceaux. Oui, bah bien sûr, c'est vrai que notre vision de la musique trad, elle a fait des petits. Alors, il y a toujours les détracteurs, hein, il y a toujours des gens qui adhèrent pas, mais ça, c'est normal, on n'oblige personne. Je crois que maintenant, il y a vraiment la place pour la musique traditionnelle assez puriste. Et puis, il y a la place aussi pour d'autres choses, justement, toutes ces musiques mixées avec les musiques traditionnelles et amplifiées aussi, parce que pour nous, c'est important, l'amplification. D'ailleurs, il y a un stage son.
Déjà, avec Steph, il y a un truc qui nous a servi dans notre progression et dans notre parcours, c'est le fait de transmettre. C'est-à-dire qu'on apprend en transmettant et on valide ses connaissances dans le fait de les apprendre aux autres.
Norbert Pignol, et Stéphane Miret.
Et on a toujours été dans ce système-là. Avec Steph, les découvertes qu'on faisait, tout de suite, on était dans une espèce d'effervescence et de joie de les communiquer aux autres. Et en même temps, en transmettant ces découvertes qu'on venait de faire, on validait nos connaissances. Ça a toujours été parallèle, ces deux choses-là. Ce qu'on découvre, on l'enseigne. Ce qu'on l'enseigne nourrit ce qu'on va découvrir encore. Et en fait, pour nous, transmettre est indissociable de notre parcours. C'est vraiment complètement lié. Et puis après, l'idée de valider les connaissances et de les transmettre aux autres en arrivant à les poser clairement, de manière pédagogique, sur le papier, sous forme de méthode, sous forme de support pédagogique idéal pour transmettre. Et ça, ça nous a permis de encore une fois, de vraiment préciser les choses et d'affiner nos théories.
On a toujours pensé la pédagogie, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, on a toujours pensé la pédagogie pas en termes de « on va former des clones ». On va former des gens qui sont autonomes sur leurs instruments pour qu'ils puissent faire leur musique. Que ce soit de la musique patrimoniale, Auvergne, Sud-Ouest, Bretagne, etc., ou d'autres musiques. On n'a jamais voulu former des gens qui jouaient notre musique, on a voulu former des gens qui soient capables de développer leur musique. Donc pour ça, dès le départ, on s'est dit il faut qu'on se nourrisse de ce qui se fait dans d'autres instruments. C'est-à-dire d'avoir une progression claire, quelque, entre guillemets, savante, même si on passait pas par l'écrit, mais avoir un cursus pédagogique clair de, on prend un débutant, qu'est-ce qu'on commence à faire sur la désolidarisation des doigts, des mains, le deux temps, le trois temps, la danse, etc. Donc on a beaucoup réfléchi à ça, à cette évolution. On prend un débutant et comment on l'amène à avoir à acquérir des techniques pour qu'à un moment donné il soit autonome pour faire sa musique. Donc c'est vraiment ça qui nous a... Et moi, quand j'ai commencé en 79, j'ai fait deux stages dans ma vie. Il y avait très peu de pros à l'époque. Il y avait Serge Désonnet, Marc Perron et Jean-Pierre Hiver, en gros. Et quand, dans les années 88-90, quand on est devenu professionnel, il y avait de plus en plus de gens qui cherchaient des profs, des voilà, il y avait rien de constitué. Donc très vite on s'est dit on va construire quelque chose pour eux. On a fait des méthodes papier, on a fait des vidéos pédagogiques, enfin voilà, on a développé tout un parcours pédagogique, mais vraiment dans le sens qu'a dit Norbert, c'est-à-dire que pour nous c'est indissociable de notre pratique. Et ça nous avait, moi ça m'a fait énormément progresser. Et ça le fait toujours, et je prends toujours un plaisir fou à transmettre ce truc-là pour que les gens soient autonomes, quoi.
Je pense que ça se passe de la même manière pour tous les instruments traditionnels, mais pour le diatto, c'est encore pire.
Jean-Marc Rohard.
Si on n'a pas un petit peu de connaissance d'harmonie, des notes, du fonctionnement de l'instrument, eh ben, ça va être même quelqu'un qui joue bien, et beaucoup de professeurs sont encore comme ça, regarde ce que je fais et tu fais ce que je fais. Voilà. Donc on ne peut pas appeler ça de la pédagogie. N'importe qui est capable de faire ça. Donc ça, c'est pas une réflexion pédagogique. Et voilà, moi, ça ne m'a pas convenu. Je pense que ça peut convenir à certaines personnes, mais je pense que ça se limite assez vite, parce que finalement, ça se limite à des morceaux qu'on apprend les uns après les autres. Et il y a beaucoup de stages qui fonctionnent comme ça. Après, c'est très bien, hein, c'est un certain travail, mais il y a maintenant des gens qui cherchent autre chose. Alors maintenant, la pédagogie de Midriaz, pour moi, elle est aussi assez simple à résumer. C'est que Norbert et Stéphane, ils ont commencé à considérer l'accordéon diatonique comme un instrument, comme les autres. Et non pas comme un instrument pour faire poum-pouette et des morceaux appris par cœur. Donc si c'est un instrument comme les autres, ben, on travaille les gammes, on travaille les accords, on travaille les arpèges, on travaille l'harmonie, on comprend comment est fait l'instrument, comment il fonctionne, et, etc. On fait un rapport, on apprend. Alors le solfège, c'est pas obligatoire. Moi, dans ma pédagogie, je ne force pas les gens à faire du solfège. Je leur dis, je leur conseille que ça peut être un outil intéressant, mais ça peut être toujours d'oreille, mais avec la conscience et la connaissance de ce qu'on fait.
Moi, la partition, pour moi, elle sert surtout comme document de travail, en fait, c'est-à-dire pour retrouver les morceaux quand on les a oubliés ou voilà, les garder de côté. Elle sert aussi beaucoup à écrire quand même les harmonies. Enfin, maintenant, on est obligé de... Avant, nous, on enregistrait, quoi. On gardait des cassettes de côté, voilà. Maintenant, on écrit. Et puis, dans le côté pédagogique, sur le côté pédagogique, bah, la partition, on la donne. Et le stagiaire, bah, soit il s'en sert, soit il ne s'en sert pas. Mais même s'il ne s'en sert pas, chez lui, il l'aura. Il peut la partager, lui, avec d'autres personnes pour pouvoir communiquer plus facilement. En fait, l'idée, c'est de travailler les deux. Et en stage, on travaille aussi d'oreille et aussi sur partition. On fait les deux. Alors, pour des morceaux très complexes, la partition, c'est quand même aidant parce que des fois, quand ça va très vite et qu'il y a plein d'altérations, c'est bien d'avoir une partition quand même pour préciser les choses, voilà, pour éviter les moments de doute, quoi.
Et ça c'est pas du tout évident. Quand on a commencé à enseigner ça, nous on se battait pour que les gens qui faisaient des musiques trad sachent aussi lire un peu la musique. Et il y a des gens qui refusaient. Et on a édité des méthodes d'accordéon diatonique où systématiquement il y avait les partitions. On était un peu obligé de mettre aussi des tablatures parce que sinon il y a des gens qui ne seraient pas intéressés. Et progressivement, dans les différents tomes de ces méthodes, bah, on a fait disparaître les tablatures parce que la musique, ça se transmet. Et on peut jouer de l'accordéon diatonique et pouvoir communiquer avec les autres musiciens. Et même, c'est bien.
Un autre point important aussi, c'est que ce qu'on veut favoriser, les apprentissages, ils peuvent être individuels, mais on veut vraiment favoriser la pratique de groupe, la notion de musique d'ensemble, l'écoute et des conditions de pratique artistique favorisant la rencontre. On peut aussi rajouter le fait que, au sein des ateliers, les apprenants, pardon pour ce mot un peu intello, en tout cas les stagiaires sont aussi dans leur fonction de musicien appelés à être diversifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer du rôle de mélodiste au rôle de rythmicien, d'accompagnateur. Ça, c'est vraiment l'idée aussi de varier les postures dans la musique et la diversité des rôles musicaux. Et puis, bien sûr, la créativité qui est favorisée.
Je m'appelle Annika, je viens de Tübingen en Allemagne du Sud. Je suis venue ici la première fois en 2018 et je connaissais personne quand je suis venue. Et voilà, c'était merveilleux. J'ai accroché avec des gens, j'ai fait petit à petit des amitiés et voilà, je retourne, si je peux, je retourne chaque année. Dans l'an 2000, j'étais à un concert de Jal. Et j'avais acheté le CD après et par la suite, j'étais rentrée en Allemagne et j'ai re-acheté d'autres CD, aussi des bouquins, enfin des recueils. Et un jour, dans l'enveloppe avec le recueil, il avait une invitation à ce stage. Et je me suis dit, tiens, c'est les musiciens de Jal qui font les stages et j'avais envie de les rencontrer et de participer. Alors, je joue dans un trio de bal folk. Donc oui, on essaye de faire la musique traditionnelle. Enfin, on essaye aussi de d'écrire nos propres morceaux. Et je peux vraiment dire tout ce que je fais là, j'ai appris ici. Spécialement aussi, enfin, une mélodie, ok, ça me vient facilement dans la tête parce que je joue des instruments à mélodie, mais après, comment harmoniser une mélodie, comment arranger un morceau, c'est tout ça j'ai appris ici. Notre groupe est tout nouveau, donc il existe depuis quelques semaines, quelques mois. Il s'appelle Vagalan.
Moi, je trouve que c'est pas la première fois que je viens, mais à chaque fois, je redécouvre. Je trouve que c'est une super semaine, en fait. Bon, au niveau technique accordéon, moi, je fais du diato, donc voilà, je savais où je mettais les pieds, donc je savais que ça tient la route à fond. Mais j'ai presque redécouvert, en fait, la richesse des soirées, des propositions qui ont été hyper diversifiées, surtout cette année. Et franchement, on a voyagé dans plein d'univers différents. La soirée des stagiaires du talent, c'était juste magique, quoi. À la fois, on turbine dans la journée, puis en même temps, il y a des soirées super chouettes. Et ouais. Voilà, on ressort de là riche de plein de choses.
Et on s'appuie donc sur une équipe administrative nourrie de bénévoles, notamment le bureau. Et bon voilà, on travaille vraiment équipe pédagogique et équipe administrative ensemble, collectivement. On a des temps forts de travaux communs, notamment autour d'un temps de symposium.
Une fois par an.
Une fois par an. Où c'est l'occasion de rebattre les cartes, si je puis dire, des données, de tout ce qu'on pointe, qu'on a envie de faire améliorer, ou tout simplement de modifier, d'accueillir d'autres intervenants, des départs, des nouvelles venues. C'est sur une sorte de cooptation en fonction de la vie et des changements et des évolutions. Lorsqu'un nouvel intervenant arrive, et ben c'est évidemment quelqu'un qui rentre dans nos systèmes de valeur ou dans ce qu'on a défini tout à l'heure au point de vue du cadre pédagogique. Voilà.
En fait, au départ, ces stages, ça a été monté par des musiciens qui jouaient ensemble. Et le critère, c'était ça. On faisait de la musique ensemble et donc, naturellement, les gens avec qui on jouait, c'était eux qui allaient enseigner. Je suis tenté de dire un peu, quelle que soit leur capacité, parce que moi, je me rappelle très bien mon premier stage. J'avais jamais enseigné, je savais pas du tout comment on faisait ça. Et puis, la deuxième fois, c'était un peu mieux. Et puis, petit à petit, on apprend à faire comme ça. Mais avant tout, c'est quelque chose de musicien. Et c'est pas, il y a des stages où il y a une association très active et ils embauchent des intervenants pour la durée du stage. Et après, on les revoit plus jamais. Nous, c'est pas ça. Nous, les gens, ils sont embauchés pour toute la vie. mais ça se fait, c'est pas parce qu'on a besoin d'une cornemuse et on va aller chercher un animateur cornemuse. C'est arrivé un petit peu sur la fin, mais au départ, non, c'est parce que Yatov, je fais de la musique avec lui et du coup, nécessairement, il va se retrouver dans le stage et il veut enseigner quoi ? Ah, tu vas enseigner la flûte à bec parce que tu joues de la flûte à bec, ok. Et ça s'est vraiment fait par affinité musicale, c'est parce qu'on défend les mêmes choses en termes de musique. Oui. Alors après, il y a gens qui, des fois, qui partent pour des raisons professionnelles ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup, hein. Et à ce moment-là, effectivement, on remplace. Il y a eu une demande pour la guitare, parce que pendant des années, il y a Jan Van Vaart qui a fait de la guitare. Et puis à un moment, on a eu un guitariste. Et du coup, on a recruté dans les gens qu'on connaissait, Sylvain Quéré.
Ouais. Et il y a eu cette demande aussi pour la basse. On ne l'a pas honorée, mais en tout cas, c'est parfois un domaine récurrent dans l'expression des demandes des stagiaires. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'important du stage Midriaz, c'est aussi d'été, c'est aussi le studio son, c'est-à-dire l'idée que la production, la captation et la diffusion du son, c'est vraiment des composantes primordiales de la musique. Et donc, on défend cette présence de l'atelier son, sonorisation home studio.
Donc, toi, tu as fait l'atelier son, sonorisation. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que vous avez travaillé, ce que vous avez bossé pendant cette semaine ?
On a travaillé tout ce qui est mixage, tout ce qui est traitement du son, tout ce qui est sonorisation d'un groupe, en fait. Et c'était vraiment très, très, très bien. Okay. Alors je suis musicien, oui, on a un groupe, alors des fois on est obligé de faire nos balances tout seul, donc je me sens assez frustré parce que devant une console, j'y connaissais strictement rien. Et là j'ai une console, du coup j'ai acheté une console il y a 6 mois, j'ai un petit studio à la maison, et donc j'ai pu manipuler un petit peu sur ma console, avec plein de trucs que je comprenais pas, et du coup là j'ai rouvert ma console jeudi parce qu'on a sorti notre propre matériel, et là j'ai tout compris en fait, les pages, les machins, à quoi ça servait, alors qu'avant je ne savais strictement rien à quoi ça servait, quoi. Toute la journée on fait de la théorie, et le soir y a un premier concert à 21h, un deuxième concert à 22h, et on se sépare en deux groupes et on applique, quoi. Après on choisit. Par contre, oui, maintenant, avec ma console, je me sens capable d'éventuellement sonoriser.
Alors la journée type, l'atelier commence à 9h30, donc avant il y a le petit déjeuner qui est copieux, ça je ne l'ai pas dit, mais aussi c'est tous des repas bio, circuits courts, super bien cuisinés, voilà. Petit déjeuner, 9h30 début d'atelier, et puis à midi il y a l'apéro. Et pendant l'apéro, il y a des restitutions d'ateliers, donc c'est des apéros musicaux, c'est-à-dire que ce qui a été travaillé dans les ateliers, tous ceux qui ont envie de présenter des choses les présentent à l'apéro, donc ça fait des apéros qui durent un peu longtemps, qui sont sympathiques. Dehors, on a un magnifique cadre.
Maintenant, s'il y avait un peu moins de bruit, on mettrait moins de temps.
C'est le sketch de l'accordage des vielles. Nous attendons depuis dorénavant 45 minutes que les vielles aient fini d'être accordées.
On attaque sur la deuxième voix, le A, d'accord ? 1, 2, 3, et...
Ensuite, il y a le repas. Ensuite, on reprend 2h30 les ateliers. Donc là, soit il y en a qui vont jouer un peu, soit ils font la sieste, voilà, soit ils restent 3h au café. Voilà, c'est des moments d'échange aussi. Ensuite, atelier de 2h30 à 5h. Une pause d'une demi-heure. Et à 5h, il y a alors une partie qui est assez spécifique à Midriaz. On appelle ça les tea time. C'est des ateliers décloisonnés où on propose différentes choses. Alors ça peut aller de la théorie débutant, en passant par des ateliers d'harmonie. On travaille l'harmonie, on harmonise des morceaux, de l'écoute musicale, de la danse des Balkans, du chant breton. Enfin voilà. Après c'est les intervenants en fait, les formateurs. Qui ont un sujet qui les habite un peu plus et du coup ils ont envie de le partager avec les stagiaires. Donc ça, c'est, il y en a qui changent chaque année. Ceux qui bougent pas, c'est les ateliers d'harmonie, parce que ça, on tient quand même bien à garder ce côté un peu théorique dans nos musiques. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils cherchent ça justement, donc on veut le garder. Et les autres, bah, c'est les formateurs qui choisissent qu'ils ont envie de faire quoi. Par exemple, Christophe Sacchettini, il aime bien parler de la musique, faire un peu de l'ethnomusicologie, voilà. Donc c'est plutôt de la discussion. Parfois, il fait de l'écoute musicale où on analyse un peu comment c'est foutu, ou juste on écoute et puis ben ouais, c'est bien. Du coup, on découvre des choses nouvelles, voilà. Et puis donc après il y a le repas, non il y a l'apéro, encore l'apéro, donc là on reboit d'apéro et on rejoue des morceaux.
Donc on est l'atelier de musique des Balkans, on va commencer par une petite danse qui s'appelle Ciobănaș, une petite danse de Roumanie. 1,
puis après le repas et en soirée. Donc la soirée commence à 21h, c'est en principe un concert, en général un concert pour démarrer, et ensuite un bal, voilà, et après des bœufs, et ça autour du bar, il y a toujours le bar quoi qui est là quand même quoi. Oui, il y a des gens qui viennent du classique, justement, qui apprennent à travailler l'oreille aussi, à jouer d'oreille, et puis à l'harmonie aussi, parce que finalement, nous, on a une approche de l'harmonie qui n'est pas enseignée dans les conservatoires, quoi. Il y a des gens de très haut niveau musical qui viennent et qui découvrent des choses, quoi. Il y a des circassiens aussi qui viennent pour rajouter de la musique dans leur spectacle de cirque. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'étranger aussi, hein. Et puis, il y a des gens qui sont pur trad. Alors, pur trad, il n'y en a pas trop, parce que justement, nous, on n'est pas trop pur trad. Voilà. Bien que, depuis l'année dernière, on a un atelier de répertoire. Donc, les gens, maintenant, qui veulent du répertoire, eh ben, ils viennent dans cet atelier répertoire.
1, 2, 3.
Thank you.
stage jeune, c'est une bonne, c'est un bon exemple parce que c'est avec Jean-Loup Sacchettini, on est partis tous les deux en Suède et on a vu que dans leur, dans un festival, il y avait des groupes de jeunes qui étaient à fond, hyper motivés, autonomes. Et en fait, c'est vrai que ça nous a donné l'envie de reproduire ça, de proposer ça à Midriaz. Et c'est, ça prend super bien. Là, c'est la deuxième année et c'est incroyable ce qui se passe.
Bah, bonjour, je m'appelle Aubry Evan, j'ai bientôt 16 ans et je pratique la guitare électrique.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 11 ans et demi et je fais de la harpe.
Bonjour, je m'appelle Colline Dalmagne, j'ai 13 ans et je fais de la harpe celtique aussi.
Bonjour, je m'appelle Lucie Frindel, j'ai 12 ans et je fais du violon.
Coucou, moi c'est Lucille et je fais de la clarinette et un petit peu de harpe celtique et j'ai 16 ans.
Nous, on fait de l'écriture de chansons. Donc, c'est un peu des chansons bizarres. Enfin, vous verrez si vous venez vendredi. Mais en gros, on pioche un mot dans le dictionnaire et on écrit une chanson à partir de ce mot. Donc, ça peut donner des trucs intéressants drôle. Et drôles. Et on a fait aussi un chant en breton et de la musique avec des machines... et des samples.
Donc, en venant ici, du coup, pareil, j'étais toujours sur ma partition. Ça m'a beaucoup aidée. Je ne savais pas, du coup, qu'on pouvait utiliser notre oreille pour jouer un morceau qu'on ne connaissait pas du tout, aucune note. Et du coup, ça, pareil, ça m'a fait ouvrir une nouvelle vision. Et en rentrant, j'ai expliqué à mon professeur que j'avais découvert d'autres techniques et que j'aimerais bien travailler ça pour vraiment être plus forte. Et j'avais eu envie d'arrêter il y a 3 ans la harpe et du coup ça m'a poussée à continuer pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime en fait.
Moi je suis complètement subjuguée par tout ce qui s'est passé, j'en reviens pas et ce final est tout simplement magnifique.
C'est quoi le final ?
Le final c'est l'ensemble, c'est le fait d'avoir joué tous ensemble. Ce fut pour moi une expérience extraordinaire. Déjà hier soir, je disais que c'était une expérience hors du commun, mais alors là, c'est le must. Moi, j'étais à l'atelier Diatto, initiation. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir eu la chance de tout découvrir. Donc, j'ai tout appris puisque j'ai démarré de zéro.
De zéro, t'as vraiment commencé le Diatto. Ton premier Diatto, tu l'as pris en main pendant le stage ?
Oui, je l'ai pris en main, mais j'ai démarré le Diatto, j'ai démarré la musique, j'ai démarré tout. C'est la première fois que je fais de la musique. On ne peut pas dire que je fais aujourd'hui de la musique, mais c'est génial.
Et la musique, normalement, on va tout faire pour que vous la reconnaissiez. Les paroles, c'est autre chose. Alors, les paroles sont dédiées à tous les membres de Mustradem et Midriaz. D'abord, il y a le soufflé de l'accordéon, celui qui a plein de boutons, celui qu'on sait plus son nom, monsieur, est-ce un chroma? Non, c'est un diatonique, où faut mettre ses 10 doigts, est-ce qu'on tire, est-ce qu'on pousse, et combien il y a de rangées? C'est mieux s'il y en a 3. Qui tricote toutes les nuits de super mélodies, pendant qu'à la main gauche, les accords ils défilent, ré, doudou, ton souplesse, enfilant les triades, et qui fait danser et puis qui fait valser. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne joue pas, monsieur, on ne joue pas, on groove. Et puis, il y a l'autre, un archer sur les cordes, qui a jamais vu une frette, qui swing, qui interprète, même qui peut exceller dans tous les répertoires, qui fait des doubles cordes, parfois dans les morceaux, enfin, quand ça s'y prête, et que c'est pas fini, qui fait ses petits concerts, avec ses petits rondons, et ses petits enterdrons, et ses petits fandangons, qui aimerait bien avoir l'air, et qui l'a le plus souvent, pour bien jouer le thème. C'est pas mal, au violon. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne joue pas, monsieur, on ne joue pas. On groove. Et puis, il y a les autres, la flûte qui parle tout le temps, rajoute des ornements, et du soir au matin, avec sa grille d'accords et sur son cadre en bois, il y a la battue de guitare qui marque les temps forts, ou bien les contretemps, où joue un 3-3-2, et ça fait des grands splings, et ça fait des grands splings. Et puis, il y a la petite vielle qui en finit pas de vibrer. Et on entend la main qui tourne la manivelle. On écoute le bourdon et puis les chanterelles. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne joue pas, monsieur, on ne joue pas, on groove. Parfois, quand on répète qu'on travaille la closée avec son ange mouillé, elle dit faut pas partir, elle dit faut rejoindre les autres. Alors à cet instant, pour tout le reste du temps, alors moi je la crois, monsieur, pour tout ce temps, pour tout le temps qui reste, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Ils vous accueillent, monsieur, chez eux. J'ai trouvé mon chez moi.